Le thème de mon message aujourd'hui va un peu avec, un peu beaucoup avec la période de vacances, mais ce n'est pas tellement des vacances que je veux parler, mais ça va être le thème de la détente ou du repos. Et Dieu sait qu'en été, principalement quand on est en vacances, on peut décrocher du travail. N'as-tu qu'apprécié ça, décrocher du travail? Oui, hein? Relaxer, se lever à 11 heures le matin, coucher tard le soir, bon, profiter de la journée. On peut relaxer du stress du travail et de toutes les occupations qui parfois deviennent très, très accaparantes jour après jour. Alors, ce matin, mon message est celui-ci. Ah, c'est beau, cet oiseau-là, hein? Regardez si c'est beau. OK, bon. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Qui aimerait occuper une des deux chaises qui est là? Pas plus que ça. OK. De toute façon, c'est pas Shawinigan. OK. De suite, c'est... Je ne sais même pas ce que c'est loin d'ici. Le Seigneur dit aux disciples, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Les 12 revenaient d'une mission d'évangélisation. Et l'Évangile nous dit au chapitre 6 qu'ils guérissaient beaucoup de malades et chassaient beaucoup de démons. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient donc, et lorsqu'ils sont revenus vers le Seigneur, beaucoup de gens venaient, ils étaient accaparés, ils avaient besoin de détendre l'arc. Moi, je ne suis pas un archer, mais j'ai lu déjà que détendre l'arc, c'est-à-dire enlever la tension de la corde, permet à l'arc de conserver toute sa force. Et pour retrouver nos forces, on a besoin de détendre, se détendre, de relaxer. Les disciples étaient très sollicités. Ils avaient besoin de s'arrêter, même dans l'évangélisation, même dans le ministère, on a besoin de s'arrêter. La Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais je crois qu'il y a un autre précieux trésor qui l'accompagne, c'est le repos. On a besoin de se reposer aussi. Actif, 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 on va s'épuiser. Il faut prendre du temps pour se reposer. À la création, Dieu a créé l'homme le sixième jour, et le lendemain, qu'est-ce que l'homme a fait? Il s'est reposé. Ça commence à bien, hein? Ça commence à bien se reposant. Mais il y avait du travail après. Le repos. Dieu lui-même s'est reposé. Est-ce que Dieu était fatigué? Non, Dieu n'était pas fatigué. Évidemment. Mais ça veut dire que Dieu s'est mis à l'écart de son travail. Il avait créé tout ce qu'on voit, tout ce qu'on connaît, et s'est mis à l'écart, il s'est reposé. Et la Bible dit que Dieu a fait ce jour-là un jour saint. En Exode chapitre 20, il est écrit ceci. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Ça veut dire un jour mis à part, un jour où il se mettait à l'écart pour s'arrêter et méditer, réfléchir sur leur propre vie, considérer qu'ils étaient dépendants du Créateur, que tout ce qu'ils avaient, Dieu leur accordait. En même temps, un jour aussi où est-ce qu'ils pouvaient remercier Dieu pour ses bienfaits. C'est bon de s'arrêter. C'est bon de prendre le temps de considérer notre vie. On est entre les mains de Dieu. En fait, c'est un jour pour se rappeler. Le peuple d'Israël, le jour du repos, le jour du sabbat, il devait se rassembler, il devait cesser tout travail, ne pas porter de fardeau, ne rien acheter, ni vendre, pas allumer de feu, pas ramasser de bois. C'est un jour mis à part pour Dieu. Évidemment, en tant que croyant, frères et sœurs, on n'est plus tenu à observer le jour du sabbat comme tel, mais le principe demeure. S'arrêter, se reposer dans le Seigneur, s'approcher de lui, prendre du temps avec Dieu, ça c'est important aussi. Un jour consacré, un jour qu'on met à part pour s'approcher du Seigneur, pour faire le point dans notre propre vie peut-être, pour entendre ce que Dieu a à nous dire au travers de sa parole, pour tourner nos cœurs vers lui, le louer, le bénir pour ses bienfaits. Un jour pour être rencontré par le Seigneur aussi. Le but c'est quoi? Un renouvellement physique et spirituel. C'est vrai pour le sabbat et c'est vrai pour nous aussi. Et Dieu sait que nous sommes très sollicités. La vie est exigeante. Je me souviens dans les années 70 à peu près, on voyait à la télévision, j'ai vu ça dans des revues aussi, comment ça s'est dans les années 2000. Et là, imaginez le monde, on travaillait presque plus dans les années 2000. On se promènerait, on relaxerait. C'est le contraire, on travaillait plus que jamais. Ça, c'était l'imaginaire, là, c'était pas ça. Le repos, c'est de cesser le travail, nos occupations. Mais c'est en même temps un repos intérieur dont on a besoin. Un réconfort intérieur, n'est-ce pas? Parce que si ça tourne constamment dans là, on se repose pas. On a besoin d'un temps d'arrêt. Un temps pour se mettre à part avec Dieu. Un temps de tranquillité. Pourquoi? Pour éviter l'épuisement, comme les disciples devaient le faire. Et Dieu, d'ailleurs, frères et sœurs, a promis ceci, que si on cherche d'abord son royaume et sa justice, il va nous donner ce qu'on a besoin pour tous les jours. Pas besoin de travailler 7 jours sur 7. Travaille 6 jours ou 5 jours, généralement. Puis maintenant, il y a toutes sortes d'horaires de travail. Mais Dieu va pourvoir à nos besoins aussi. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Ne vous inquiétez pas des autres choses. Dieu, il pourvoira à sa manière et en son temps. D'ailleurs, Ecclésiaste chapitre 5 nous dit quoi? Au verset 11. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Le travailleur, même s'il n'est pas dans la surabondance, il peut dormir en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Mais celui qui poursuit constamment la richesse, il ne dort pas, il s'inquiète constamment, il est en train de calculer tout ça, ça ne s'arrête jamais. Mais ce matin, je ne veux pas seulement parler du repos des vacances, du repos de la fin de semaine, du repos de la nuit, mais je veux parler aussi du repos intérieur. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre faisait la veille de son exécution? Quelqu'un sait? Il dormait. Pierre, la veille de son exécution, en Actes chapitre 12, vous pouvez lire ça, il savait qu'il allait être exécuté, et il dormait. Un ange est entré dans la cellule, puis il l'a réveillé. Il dormait. Comment ça, dormir? La veille de l'exécution. Ça, frères et sœurs, c'est la paix de Dieu. C'est autre chose que la paix de Dieu. Comment quelqu'un qui sait que le lendemain, il va se faire trancher la tête ou je ne sais pas quoi d'autre, et qui peut dormir comme ça? Il faut savoir aussi que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour lui. Et je vous encourage à prier les uns pour les autres. Qui sait le besoin de mon frère ou de ma sœur et ce que Dieu peut faire à ce moment-là? Je crois que les prières des chrétiens étaient exaucées, même plus qu'ils s'attendaient, parce qu'on sait l'histoire. Pierre a été libéré miraculeusement. Et quand il est arrivé à la porte, il ne croyait pas que c'était lui. Mais les prières des chrétiens étaient efficaces à son égard. En fait, la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de souffrance ou de lutte, mais c'est la présence de Dieu au travers de nos souffrances ou nos luttes. La paix de Dieu, c'est ça. Dieu est avec nous dans nos circonstances. Le psaume 23 nous dit quoi? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ça parle de repos et de paix. Le bon berger m'amène et me fait reposer dans de verts pâturages. Je peux être dans sa présence calme. La brebis est en sécurité avec lui. Ésaïe 63, verset 14, j'aime bien ce verset-là que j'ai lu dernièrement. Comme à un troupeau qui gagne la vallée, l'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. L'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Frères et sœurs, le repos, c'est un don de Dieu. La paix, c'est un don de Dieu. Jésus a dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est lui qui l'a créée en nous, malgré les circonstances de la vie. Dieu vient donc et nous donne cette paix et ce repos. Qu'est-ce qui nous prive de la paix et du repos? L'inquiétude, les problèmes du quotidien et le stress qui en résulte, les conflits, nos manquements, nos regrets et combien d'autres choses qui nous privent de la paix et du repos de Dieu. Et ce qui en résulte, c'est quoi? De l'agitation, de la frustration, de la fatigue, de l'épuisement, des tensions, ça nous prive. Et voyez-vous, certains jours, on est comme les disciples dans la barque. Dans l'évangile de Marc, on lit ceci. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point que ça remplissait des gens. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveilla et lui dit, « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir? » La tempête soufflait, la barque était ballottée de tout bord, de tout côté, et le Seigneur à l'arrière, sur le coussin, il dormait. D'ailleurs, voici une représentation. Ça, c'est une peinture d'un peintre très, très connu. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et nous voyons les disciples ici qui sont en train de le supplier. Seigneur, faites-toi. Nous en voyons d'autres qui attendent de maîtriser la voile. Un autre qui tient la barre, puis un autre qui est malade en bas. Oui, il y avait une balle de mer. Ça brassait dans la barque. Et les disciples étaient affolés. Et le Seigneur dormait. Alors vous allez dire, oui, mais il est Dieu. Oui, il est Dieu, mais il est homme aussi. Pleinement confiant d'être dans la main de son Père. Pleinement confiant. C'est la panique à bord. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Eh bien, on va lire la suite. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Le vent tomba, il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? En fait, il aurait dû dormir eux autres aussi. Auriez-vous dormi, vous autres? Le Seigneur, ici, est en train de nous enseigner quelque chose. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Ne laissez pas la crainte vous envahir. Et Dieu sait que des fois, la crainte nous envahit. Vrai ou pas vrai? Ça nous envahit des fois. Il parle de leur manque de foi. La foi faisait défaut. C'est vrai pour nous aussi parfois. Notre foi est vacillante, parfois elle est chancelante. En fait, personne ne peut être rempli de crainte au sujet du lendemain et en même temps plein de confiance en Dieu. Si tu as pleinement confiance en Dieu, la crainte n'y sera pas. Mais lorsque tu laisses ta crainte s'emparer de toi, la confiance disparaît. La confiance nous remplit de terreur. La foi nous donne une stabilité étonnante. La crainte engendre de l'agitation, la foi nous tranquillise. Et sans tranquillité, il n'y a pas de repos. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que le bateau ne fera pas naufrage et la tourmente ne durera pas toujours. Parfois, on part dans des circonstances de la vie où est-ce que là, vraiment, comment ça va finir cette affaire-là, puis on est tout à l'envers. Le bateau n'a pas coulé, la tempête s'est calmée. Ça va arriver aussi, frères et sœurs. Dieu va être avec nous à travers cela. J'ai lu quelque chose dans une lecture quotidienne, puis j'aimerais vous en faire part ce matin. Je pense que ça vient de sa parole pour aujourd'hui. Ça dit, « Dieu n'a pas besoin de nos prières et de nos louanges, mais nous, nous avons besoin de lui adresser les unes et les autres. » N'est-ce pas? En bénissant le Seigneur, c'est notre âme qui se revitalise, qui dépasse les difficultés quotidiennes, les revers de la vie, les doutes et les soucis. Passer davantage de temps à le bénir revient à perdre moins de temps à ressasser nos problèmes. Et les problèmes, des fois, ça se génère une tempête, puis plus ça génère, plus le vent tourbillonne et plus il fait tempête. Le 29 avril 2015, 8 hommes inculpés de délits de trafic de drogue ont été exécutés en Indonésie. L'un d'eux, un Australien, s'était converti peu après son arrestation et avait suivi des cours bibliques durant son incarcération. Son compatriote, un autre Australien, accepta Jésus peu après, puis d'autres suivirent. Le jour de leur exécution, un seul n'avait pas accepté le salut en Jésus-Christ. Mais ce jour-là, tous, les 8, sans exception, chantèrent des chants de louange à Dieu, dont l'hymne Amazing Grace, Grâce infinie. Encore plus poignant fut leur choix du dernier chant avant l'exécution, un chant composé en 2011 par le chanteur anglais Matt Redman et intitulé 10 000 raisons de bénir le Seigneur. Un chant qu'il avait que lui, l'auteur, avait jugé médiocre à l'époque, il a même voulu le retirer de son album. Ces 8 hommes sont tombés sous les balles du peloton d'exécution, ce chant de louange aux lèvres. Lorsque Matt Redman en fut informé, il déclara, « En tant que musicien et chef de chœur, c'est l'acte de louange à Dieu le plus extraordinaire dont j'ai jamais entendu parler. Ensuite, j'ai compris que la louange peut vous permettre de tout affronter dans la vie, même le peloton d'exécution. » Quelque chose, hein? C'était des bandits, mais heureusement, ils sont convertis. Et ils sont au ciel avec le Seigneur. Comment ont-ils pu chanter au travers de cette circonstance aussi ébranlante, si ce n'est que l'Esprit de Dieu était avec eux? Que le Seigneur était avec eux, qu'il les soutenait et les fortifiait au travers des circonstances. Frères et sœurs, faire face au peloton d'exécution, c'est un peu comme une tempête. Parce que des jours ou des semaines d'avance, tu sais que ça va arriver. Et là, ça peut tourner dans ta tête. Tu es remué complètement. Mais Dieu a donné cette grâce à ses hommes. Et Dieu peut vous donner la grâce de chanter ses louanges aussi en toutes circonstances. Vous voyez cela? C'est un acte de foi qu'on fait. C'est par la foi qu'on le fait. Mais Dieu est avec nous dans ces circonstances-là aussi. Et comme le dit l'auteur, Dieu peut poser nos prières et nos louanges, mais nous avons besoin de lui exprimer nos prières et nos louanges. Voilà ce qu'on doit faire. Pensons à ces hommes qui sont tombés sur le peloton d'exécution, confiant dans le Seigneur. Qu'est-ce qui nous prive du repos? La crainte et le manque de foi. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre cœur soit votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. S'il y a des versets sur lesquels je suis souvent revenu dans ma vie, c'est bien ceux-là. Parce que j'avais besoin justement de trouver la paix de Dieu, alors je relisais ces choses-là. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie de connaître, n'est-ce pas un privilège? De le connaître comme notre sauveur personnel. Quel privilège nous avons! De le suivre, quelles que soient les circonstances. La Bible dit « Servez l'Éternel avec joie ». Ça veut dire avec un contentement plein d'entrain. Servez-le avec joie. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur ici, c'est la soumission à Dieu, ne pas lui résister. Faire toutes choses sans murmure, comme dit Paul. S'en remettre à lui. L'Évangile de Luc nous dit ceci au chapitre 12 et verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? On ne peut même pas ajouter un centième de seconde. Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Donc, le Seigneur veut qu'on remette nos inquiétudes, qu'on s'en remette à lui complètement. Ésaïe 41 est un bon verset aussi. N'aie pas peur. Je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Béni soit le Seigneur pour ses promesses, n'est-ce pas? Dieu nous accompagne dans cela. Il faut refuser que la crainte et l'inquiétude s'installent. Frères et sœurs, quand M. Souci vient frapper à votre porte, là, regardez bien qui est en arrière de lui, parce que Mme Peur va rentrer tout affolée. Après ça, il va y avoir leur grande fille, mademoiselle, déprime. Elle n'a même pas l'âge. Après ça, il y a les jumeaux, échecs et regrets. Eux, ils prennent la place. Puis la petite angoisse qui suit derrière, qui fourre son nez partout. Si vous les laissez rentrer, là, ils vont s'asseoir à la table avec vous autres. Après ça, ils vont passer au salon. Puis ils vont se coucher avec vous autres. La prochaine fois qu'ils frappent à votre porte, là, dis, ah, je suis désolé, je ne peux pas le savoir aujourd'hui. Non, non, dis pas ça, soyez pas poli. Au nom de Jésus, fichez le camp. Il faut prendre autorité sur ces choses qui parfois viennent tellement nous perturber, nous déranger, qu'on en perd notre paix. Le psaume 94 dit quoi? Au verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Merci Seigneur. Vous savez, parfois, c'est comme un moulin. Ça tourne, ça tourne, ça tourne sans arrêt. C'est l'énergie solaire, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Eh bien, tes consolations réjouissent mon âme. On peut retrouver la paix que Dieu nous promet. Ésaïe 43 nous dit quoi? Voici maintenant ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur que je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'en fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je lui ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Quelle merveilleuse promesse pour Israël, mais c'est pour nous autres aussi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je t'ai racheté, je t'appelle par mon nom, tu m'appartiens. On peut se reposer en lui. Au lieu de s'inquiéter de toutes sortes de choses. Vous savez, l'inquiétude s'est répandue partout. Hier, j'étais dans une rencontre de famille, et puis dans la maison où j'étais, il y avait des livres, je commençais à regarder les livres qu'il y avait là. J'en ai trouvé un qui parle justement de comment vaincre l'inquiétude et l'angoisse, écrit par deux psychologues et deux femmes, parce qu'il s'adressait seulement aux femmes. Pourquoi, mais seulement aux femmes. Et 190 pages pour parler d'inquiétude, de l'angoisse, et puis par des méthodes de thérapie, essayer de surmonter ça. On a mieux que les méthodes de thérapie, on a le Seigneur Jésus, sa parole. C'est bien plus précieux. Mais ça montre que c'est un problème tellement répandu. S'entretenir de la parole de Dieu pour discerner ce qui est bon pour moi, ce qui va m'aider véritablement. Le psaume 119 dit quoi au verset 73? Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Donne-moi l'intelligence, Seigneur, pour que j'apprenne ta parole, que je reçoive ta parole dans mon cœur. Un deuxième volet que je veux parler ce matin, c'est qu'est-ce qui nous prive du repos? Les conflits. Quelqu'un qui a mis des conflits ici? Je pense pas, hein? Conflits dans la famille, au travail, à l'école, dans l'église, tôt ou tard, il y a des conflits. Il y a une situation de conflit qui survient. Le roi David fuyait son fils Absalom parce qu'Absalom s'est révolté contre lui et David se fait sauver sa vie, puis il ne voulait pas se venger non plus. Mais un des hommes de David a quand même tué Absalom. L'apôtre Paul, dans Philippiens, le même chapitre qu'on parlait tantôt, je vais vous lire ici ce qu'il recommande à Philippiens. Il recommande à son ami à qui il adresse cette lettre. Il lui dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche, les deux femmes dans l'Église, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Il exhortait Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment. En d'autres mots, à s'accorder, à trouver une solution à leur désaccord ou leur conflit, à faire la paix. Et il y avait besoin d'un médiateur ou un témoin, en tout cas, pour essayer de régler cette situation-là. Quand j'étais pasteur à Rimouski, il y avait deux jeunes hommes dans l'église, des bons frères, tous les deux, qui, je le savais, n'étaient pas en grande harmonie. Et un jour, il y en a un des deux qui me dit, « Pasteur, il faudrait qu'on se parle, lui et moi, mais j'aimerais ça que vous soyez là. » D'accord, il faut y aller. Pas tellement comme médiateur, mais comme témoin. Et c'était deux gars avec des caractères assez forts, puis pas facile de faire changer d'idée. Alors, je me disais, « Oh, ça va être intéressant. » Alors, ça va être intéressant. Oh non, j'ai été écouté pendant 1h30, 2h comme il faut, au moins 2 heures, je pense. Je suis pas tellement intervenu, parce que je voulais surtout pas faire voir que j'avais participé là-dedans. Ça aurait créé un autre problème. Là, c'est moi qui ai été un conflit. J'ai fait bien attention. Mais je crois que c'était fructueux. Vous savez, des fois, là, quand ça ne va pas, il vaut mieux se parler, mais ils sont parlés, mais poliment. Pas en disant des bêtises. Ils ont parlé correctement, poliment, posément aussi. Mais ça les a aidés, je pense, à mieux se comprendre. Et par la suite, je crois que ça a amélioré leur relation. C'est mieux d'avoir une communication quelconque que pas du tout. Pas du tout, on se fait encore des idées de ci, de ça. Alors qu'on peut se parler ouvertement, mais franchement, honnêtement aussi, je crois que ça aide grandement. Alors, il y a moyen de trouver des solutions à nos conflits. Mais quand il y a des conflits avec quelqu'un, tant qu'on n'a pas l'idée de l'affaire, là, bien, ça tourne dans notre tête. Hein. Là, on imagine des scénarios, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que l'autre va dire, puis, bon, puis toutes sortes de histoires. Puis des fois, c'est qu'on on gonfle l'affaire, on enfle la chose. Ça devient énorme dans notre tête. Nos émotions embattent là-dedans, puis là, on est tout à l'envers. Ça, il faut faire attention à ça. Vaut mieux peut-être en parler avec quelqu'un de confiance, en parler au Seigneur, mais surtout chercher à trouver une solution pour rétablir la paix entre nous. La Bible dit quoi? En autant que ça dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Alors, cherchez donc à être un faiseur de paix, à rétablir la situation, si c'est possible. Si c'est possible. Mais Colossiens chapitre 3, verset 15 nous dit quoi? Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, supportez-vous les uns les autres, avec patience. Avec patience. Au lieu de vous plaindre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Revêtez-vous de l'amour. Alors, il parle de choses qu'on peut faire avec l'aide de Dieu. Quand la volonté y est, on peut y arriver, n'est-ce pas? Tout ça est possible. D'ailleurs, le pardon, c'est merveilleux. Ça libère de mauvais sentiments. Le pardon, ça apaise les tensions entre moi et quelqu'un d'autre. Le pardon, ça facilite la résolution du conflit. Quand j'ai pardonné, c'est beaucoup plus facile de rétablir le lien ou le pont avec l'autre. Et ça accorde un repos bienfaisant indispensable. C'est pas merveilleux? C'est accessible à nous, ça. On peut le faire. Et ainsi, on devient quelqu'un vraiment qui va vivre en harmonie le plus possible avec d'autres. Et c'est vrai en toutes circonstances. La Bible dit dans Ésaïe 30, « Dans le retour à Dieu et le repos que sera votre force, dans le calme et la confiance que sera votre salut. » Le retour à Dieu, une autre version dans la conversion, et le repos en lui, que sera votre force. Dans le calme et la confiance, que sera votre salut. On est appelé à renouveler nos forces en lui, à trouver le repos en lui. Le Seigneur a fait un appel extraordinaire un jour, et voici son appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau léger. Quelle merveilleuse invitation! Qu'est-ce qu'on peut recevoir de mieux du Seigneur? Venez à moi. Il nous invite, qui qu'on soit ici, à aller vers lui, d'abord pour trouver le repos de notre âme, par la conversion. Dans la conversion, le repos, c'est à votre force. La conversion, en lui confessant mes péchés, mais en remettant à lui complètement. Alors, je vous donnerai du repos. Ensuite, il dit quoi? Acceptez mes exigences, recevez ma parole, mes instructions. Dans la vie chrétienne, frères et sœurs, on est comme à l'école. On apprend. Et ça n'a jamais fini. Il y a des cours toute notre vie. Il y a de la formation continue. Acceptez mes exigences. On a besoin de revoir encore ces exigences. Et je suis douzième de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Tellement de choses qui nous agitent. Tellement de choses parfois qui viennent nous troubler. On aurait beau être en vacances, mais tant qu'il y a des choses qui tournent, tant qu'il y a des situations de conflit, des situations qui nous perturbent, on ne trouve pas de repos. Mais en lui, en Jésus, on peut trouver le repos. Quand la tempête vous fait rage, avec l'aide de Dieu, on peut même se reposer aussi, comme Jésus. Ça, frères et sœurs, là, c'est un miracle de Dieu. Je ne peux pas le faire par moi-même, ça. C'est Dieu qui le fait en moi. Mais si je me confie en lui, sa promesse est vraie. Il va être avec nous dans ces circonstances-là. Même si c'est éprouvant, même si c'est difficile, il nous fait traverser par la vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur est avec moi. Alléluia! Ta houlette et ton bâton me rassurent. La parole de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, il nous accompagne. J'invite les musiciens à venir maintenant, si vous voulez. Le Seigneur nous invite à son repos aujourd'hui. Il nous invite à trouver la paix en lui. À nous en remettre à lui pleinement. Trop souvent, on cherche à contrôler les circonstances. On cherche à essayer de régler les choses. Alors que, on devrait lui remettre les choses. C'est pas dit qu'on va rien faire. D'abord, s'en remettre à lui. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Seigneur, donne-moi ton intelligence. Seigneur, donne-moi comment faire. Et alors, il nous donne une solution, une inspiration, et nous amène à nous reposer en lui. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun ici puisse trouver le vrai repos. D'abord pour le salut de son âme, mais le repos aussi, Seigneur, de la marche avec toi. Car nous savons que tôt ou tard, Seigneur, la tempête va faire rage, que ce soit par maladie, que ce soit par une épreuve quelconque dans la famille, que ce soit au travail, la tempête va faire rage. Mais Seigneur, dans la tempête, tu es là et tu nous accompagnes. Et ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que tu accordes à ceux et celles qui le cherchent, à ceux et celles qui en ont tant besoin aujourd'hui, ton repos. Et pendant que les musiciens vont jouer un chant, si le Seigneur parle à votre cœur ce matin, si vous ressentez ce besoin de trouver sa paix, recevoir sa paix, de recevoir son repos, je vais vous inviter à vous lever là où vous êtes et nous allons prier ensemble par la suite. Si vraiment vous êtes dans des situations où est-ce que vous êtes perturbé intérieurement, Dieu veut vous donner aujourd'hui son repos et sa paix. Si vous le voulez maintenant, levez-vous si vous le désirez, nous allons prier ensemble et réclamer du Seigneur son intervention envers vous. Qu'il vous fasse du bien pendant qu'on va chanter un chant.